Moi, je suis évidemment très en colère parce que je ne comprends pas pourquoi on a laissé cette manifestation s'installer à partir du moment où elle était interdite.
Plus de 20 000 personnes rassemblées hier à Paris à l'appel de la famille d'Adama Traoré. Des incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre. Incompréhension donc du maire du 17e arrondissement. La ville qui ne dort jamais, contrainte au couvre-feu et cela dès 20h. Décision prise face aux manifestations après la mort de George Floyd. Dans quelques instants, nous serons à New York avec Xavier Yvon. Journée spéciale Allô Impôts. On répond à toutes vos questions sur Europe 1. Attention aux déclarations de revenus pré-remplis, mieux vaut les vérifier. Peut-être des ennuis judiciaires pour le professeur Raoult. Selon le Canard enchaîné, il aurait prescrit de la chloroquine à des patients sans les prévenir. Et puis transpirer tous ensemble, les sportifs retrouvent enfin leur salle, comme ici à Marseille.
On transpire au boulot, dans un magasin, c'est la même chose. De partout où vous allez, si on a peur, on reste chez soi. Les précautions sont prises, les coachs ont les masques, tout est bien pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions.
Et votre invité à 7h40, Mathieu ?
Antoine Joutot, directeur général du site leboncoin.fr. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris dans le 14e arrondissement. Je vais y arriver, c'est à 8h15 sur Europe 1 ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Le mouvement contre les violences policières aux États-Unis fait désormais des émules en France. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées hier devant le tribunal de Paris malgré l'interdiction. Manifestation à l'appel des proches d'Adama Traoré, ce jeune homme noir décédé en 2016 lors de son arrestation. Le jour où une expertise mettait d'ailleurs en cause les gendarmes. Dans la soirée, le rassemblement a dégénéré avec l'arrivée de casseurs, jets de pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, mobilier urbain incendié. Le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, ne cache pas sa colère.
Moi, je suis évidemment très en colère parce que je ne comprends pas pourquoi on a laissé cette manifestation s'installer à partir du moment où elle était interdite. À partir du moment où elle est interdite, le préfet de police aurait dû donner l'instruction d'interpeller systématiquement les premiers arrivants. Ça n'a pas été fait. Le préfet de police devra s'expliquer et le ministre de l'Intérieur. Je comprends complètement le fond de la manifestation. La majorité des manifestants était pacifiste. Mais le sujet, c'est qu'elle était interdite. Alors pourquoi elle s'est tenue ? Je ne comprends pas comment on en est arrivé là à avoir 23 000 personnes qui submergent notre arrondissement avec des infiltrés qui sont des membres de l'ultra-gauche, qui sont des ennemis de l'État, qui sont venus encore une fois frapper en plein Paris.
Le maire du 17e arrondissement de Paris, la violence n'a pas sa place en démocratie, a tweeté Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur estime que rien ne justifie les débordements d'hier devant le tribunal de Paris.
Les conditions de la mort de George Floyd ont allumé l'incendie aux États-Unis et désormais les flammes ravagent presque tout le pays.
Des manifestations, des affrontements contre le racisme et les violences policières. En reprenant les derniers mots de la victime, je ne peux plus respirer. Un couvre-feu a été décrété dans une quarantaine de villes, notamment à New York dès 20h. Récit d'une soirée inédite à Manhattan, Xavier Yvon.
Le soleil se couche entre les buildings de Manhattan. Des ouvriers finissent d'installer des panneaux de bois sur les vitrines d'un magasin. Il est bientôt 20h. Trois jeunes filles courent sur la 14e rue. C'est bientôt le couvre-feu, disent-elles. On doit rentrer chez nous. Un peu plus loin, sur Union Square, des irréductibles se rassemblent. Moi, je ne vais nulle part, hurle OG, nique le couvre-feu, scandent les manifestants qui se mettent à marcher dans les rues vides de Manhattan. On va rester dehors aussi longtemps que possible, dit un jeune afro-américain, parce qu'on veut montrer à la police que nous voulons vraiment du changement. Au détour d'une rue, on aperçoit l'Empire State Building plongé dans le noir, lumières éteintes en hommage à George Floyd. Tous les magasins que l'on croise sont barricadés, recouverts de panneaux de bois, enfin presque tous. Une vitrine vole en éclats, un groupe de payeurs s'empare de vêtements et même des mannequins sous les huées de la foule. Le cortège tourne en rond dans les rues de Manhattan, survolé par des hélicoptères et suivi par des policiers à matraque qui n'interviennent pas. Finalement, la lassitude l'emporte. Rentrez chez vous, dit un organisateur qui donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, même colère. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et à Houston, au Texas, un rassemblement pacifique d'au moins 60 000 personnes a rendu hommage à George Floyd dans cette ville où il a grandi et où il sera enterré la semaine prochaine.
Europe 1, il est 7h05.
Avez-vous bien vérifié votre déclaration de revenus, même si elle est déjà pré-remplie? Les échéances arrivent dès cette semaine, selon votre département. Et pour vous aider, Europe 1, comme chaque année, organise la journée Allô Impôts.
Et grande nouveauté, cette année, 12 millions de foyers fiscaux n'ont en principe rien à faire. En principe, car il est plus prudent de regarder de près les données inscrites et le cas échéant, de les compléter. Olivier Samar.
D'abord, qui est concerné par cette déclaration totalement préremplie ? Vous, si vous avez été imposé l'an dernier, et si cette imposition s'est faite uniquement sur des revenus que l'administration avait récupérés auprès d'organismes tiers. Le fisc considère que si ça a été votre cas en 2019, il y a de grandes chances que ce soit la même chose en 2020. Autrement dit, qu'il a en main tous les éléments nécessaires à l'établissement de votre impôt. Mais attention, il y a peut-être des informations qui lui ont échappé et qui, si vous ne les lui transmettez pas, peuvent au final vous faire payer trop d'impôts. Par exemple, la naissance d'un enfant qui vous donne droit à une demi-part supplémentaire. Il y a aussi des revenus que l'administration ne peut pas connaître et que vous devez ajouter si vous les avez perçus. Exemple, les loyers d'un bien que vous avez mis en location. D'où ce conseil, vérifiez tout ce qui a été inscrit sur votre déclaration et complétez tout ce qu'il y a à compléter. Si vous ne faites rien, ce qui est pré-imprimé sera réputé validé et signé par vos soins et vous engagera vis-à-vis du fisc.
Les bons conseils d'Olivier Samin.
Alors, si vous avez la moindre question, vous appelez le 3921. À partir de 8h jusqu'à 19h, des membres de l'Ordre des experts comptables seront au bout du fil pour vous répondre.
50 centimes la minute plus le coût de l'appel. Journée spéciale Allo Impôts avec Le Parisien aujourd'hui en France. Le déconfinement a commencé hier. Bonheur de retrouver les terrasses des bars et cafés, parfois jusqu'à très tard dans la soirée. Du côté des élèves, c'est un retour en classe en ordre dispersé.
Selon le département, selon la classe d'âge et parfois selon le bon vouloir des maires. Bref, de nombreux enfants auront passé 6 mois sans école. Si vous êtes parents ou grands-parents, vous vous demandez peut-être si c'est grave pour la suite et comment rassurer les petits et parfois les plus grands. Éclairage de Victor Dolande.
Depuis le déconfinement, Bianca et Anna se voient régulièrement. Elles parlent, regardent des séries mais travaillent peu. Respectivement en troisième et en seconde, elles n'ont plus de motivation.
Si j'ai des bonnes notes, c'est surtout parce que je participe en classe et j'écoute en classe plus que je travaille à la maison. C'est vrai qu'on manque un peu de cadre, quoi.
C'est super bizarre de se dire qu'on travaille pour qu'au final on ait un bulletin avec les appréciations, on sait même pas d'où elles vont venir, puisque les profs ils nous ont pas vus du trimestre.
Hugo Billard est professeur d'histoire-géographie dans un lycée parisien. Le plus important selon lui, redonner des habitudes de travail et vite.
Il va falloir faire en 3 mois, 6 mois d'école. Et ça va être le plus difficile. Donc il faudra simplement faire des choix dans les matières sur ce qui sera important et ce qui sera moins important.
Mais que les élèves se rassurent, ajoute-t-il, les professeurs seront moins exigeants et ils s'adapteront à leur niveau. Un retard à combler également chez les plus petits et notamment les enfants qui vont rentrer en CP. Roland Guagou est formateur d'enseignants. Il insiste lui aussi sur les premiers mois d'école.
Les maîtres de cours préparatoires vont devoir d'une certaine manière faire une partie du travail qui habituellement se fait en fin de grande section de maternelle. Ils avaient l'habitude de le faire sous un mode presque de révision. Là, ça sera bien plus que des révisions.
Il faudra, selon lui, renforcer les aides personnalisées pour que le fossé ne se creuse pas davantage entre les enfants qui ont été aidés, stimulés par leurs parents pendant le confinement et ceux qui ont dû se débrouiller tout seuls.
La Sécu dans le rouge foncé. Le déficit devrait dépasser les 52 milliards d'euros cette année. Un niveau extrêmement inquiétant, selon le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.
À partir de ce matin, les 6 entrepôts français d'Amazon reprennent totalement le travail. Et c'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Malgré un mois d'arrêt, Amazon sort renforcé de la crise.
Oui, c'est très clair. La reprise du travail, d'ailleurs, s'est étalée sur 3 semaines. Et ce matin, les équipes d'Amazon France sont donc au complet et à pied d'œuvre. La leçon que l'on peut tirer des dernières semaines, eh bien, c'est qu'Amazon, partout où il opère dans le monde, est devenu un service dont des millions de ménages ne peuvent plus se passer. Pendant le confinement, Amazon a conquis 2,4 millions de nouveaux foyers rien qu'en France. Aux États-Unis, l'empire Amazon représente 27% de toutes les ventes, contre 16% avant la pandémie. Amazon a gagné en 2 mois presque autant de parts de marché qu'en 10 ans, au détriment d'enseignes de grands magasins qui se sont placés en faillite aux États-Unis.
Alors qu'Amazon n'a jamais valu autant en bourse.
Oui, c'est vraiment le grand gagnant de la crise. Sa valeur en bourse a flambé de 30% depuis le début de l'année. Amazon vaut plus de 1200 milliards de dollars. Si vous additionnez toutes les sociétés du CAC 40, vous arrivez à 1700 milliards. Donc vous voyez, Amazon n'est pas très loin. Il emploie 840 000 personnes et fait aussi travailler 200 000 robots. Ce que l'on peut retenir de ce succès planétaire, Chine exceptée, c'est que la crise du Covid est un incroyable accélérateur de tendance. Avec le confinement de plus de la moitié de l'humanité, le e-commerce a fait un bond et l'empire Amazon est plus puissant que jamais.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1. Amazon gagnant du confinement, leboncoin.fr gagnant du déconfinement, journée record historique pour Le Bon Coin. Le 10 mai, je reçois le directeur général du Bon Coin à 7h40 tout à l'heure.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1, des ennuis judiciaires en vue pour le professeur Raoult qui aurait prescrit de la chloroquine sans l'accord des patients. On en parle dans la suite du journal de 7h.
Europe 1, il est 7h12, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Un as de la polémique pour les uns, un sauveur même pour les autres, le professeur Raoult, ardent défenseur de la chloroquine, vous le savez. Il pourrait avoir des ennuis judiciaires.
L'efficacité de son traitement contre le Covid-19 n'est pas en cause, c'est plutôt les conditions dans lesquelles les essais ont été effectués. Selon le Canard enchaîné qui paraît ce matin, le parquet de Marseille a reçu un signalement. Les précisions d'Hélène Terzian.
Et si le professeur Raoult avait prescrit de la chloroquine pour un de ses essais thérapeutiques sans avoir demandé l'accord de ses patients? C'est ce que sous-entend un confrère de l'infectiologue qui a fait un signalement au parquet de Marseille au début du mois d'avril. D'après nos confrères du Canard enchaîné, ce médecin pointe du doit les conditions dans lesquelles les premiers essais cliniques de Didier Raoult contre le Covid-19 ont été menés. Alors que la loi exige que ces essais se fassent avec le consentement libre et éclairé de l'intéressé, les équipes du professeur ont présenté l'étude publiée le 27 mars comme une simple recherche observationnelle. Observationnelle, ce qui juridiquement ne nécessite pas l'accord formel des patients. Sollicité par la procureure de Marseille, l'Agence nationale du médicament explique avoir mené sa propre enquête auprès de l'infectiologue. La conclusion et sans appel, les modalités d'information des patients et de traçabilité de la motivation de la prescription ne sont pas conformes aux exigences légales. Accusation rejetée en bloc par Didier Raoult. L'agence du médicament a décidé de saisir l'ordre des médecins.
Didier Raoult qui, dans sa dernière vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux, se présente comme une star des maladies infectieuses.
Au menu du Conseil des ministres ce matin, une nomination, celle de Pierre Moscovici à la tête de la Cour des comptes.
Ancien ministre de l'économie de François Hollande, il va donc contrôler les finances publiques. Michaël Darmon, est-ce que c'est l'amorce d'un virage à gauche d'Emmanuel Macron ?
En tout cas, le président met le clignotant. Avec Pierre Moscovici, on n'est pas dans la gauche révolutionnaire. Avec lui, Emmanuel Macron retrouve cette gauche social-démocrate au sein de laquelle il évoluait encore il y a quelques années. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le bureau présidentiel, jeudi dernier, eh bien, les deux hommes ont évoqué ce temps en 2012, lorsqu'ils ont piloté la passation de pouvoir entre les équipes de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande. Quelques mois plus tard, alors qu'Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint à l'Élysée, Moscou, comme tout le monde le surnomme, et lui était ministre des Finances à la tête de Bercy et tirait la sonnette d'alarme contre le ras-le-bol fiscal des Français qui subissaient donc des hausses d'impôts importantes. Les impôts, c'est le sujet le plus sensible pour les Français. Aujourd'hui, le nouveau président de la Cour des comptes doit tenir compte de la crise économique. Il sait qu'il ne devra surtout pas préconiser une politique d'austérité avec une pression fiscale sur les ménages. Pierre Moscovici va surtout s'attacher à évaluer les politiques sociales et environnementales, moins focalisées sur les réductions de déficit. Nommé pour 8 ans, Moscovici, le socialiste, accède à un point de vue privilégié sur l'exécutif. Il est désormais chargé de contrôler la bonne utilisation de l'argent public pour la fin du quinquennat Macron.
Votre fait politique, Michaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Les baskets. Je parlais à un basketteur un peu plus tôt sur l'antenne, c'est pour ça. Les baskets sont devenus l'accessoire à la mode ces dernières semaines. C'est d'ailleurs la journée internationale du running. Mais, confinement oblige, certains d'entre vous ont sans doute aussi fait de la gym à la maison, seul ou devant un écran.
Mais ça y est, les salles de sport sont rouvertes en zone verte. Enfin, le retour au réel. On participe aux cours de Zumba ou d'abdos fessiers. On soulève de la fonte, comme dans cette salle marseillaise où Nathalie Chevance nous emmène.
Je me languissais parce que c'était dur. De pouvoir plus s'entraîner, moi, il faut que je sois dans la salle, sinon c'est pas possible. À la maison, c'est pas pour moi. Ça fait plaisir de reprendre.
Les voilà de retour en salle de musculation, les sportifs. Une machine sur deux sacrifiée, désinfection obligatoire du matériel par les adhérents et le personnel après chaque utilisation. Protocole sanitaire contraignant. Laetitia, coach sportive, accueille les clients masqués.
Parce que du coup, les adhérents, c'est compliqué de faire du sport avec le masque. Donc du coup, moi, je le mets pour les protéger à eux en même temps que je me protège en fait. Là, depuis ce matin, ça fait qu'appeler, ça se renseigne du comment ça se passe dans la salle. Et puis, il y en a qui ont quand même des craintes encore par rapport au virus. Donc en extérieur, oui, mais c'est vrai qu'en intérieur, il y en a qui se posent quand des questions. Je pense qu'après, ils seront rassurés quand les gens y seront venus. Mais je pense que ça va être calme quand même, là, le mois de juin.
D'autant que pour les cours collectifs, il faut réserver son créneau horaire. Distanciation sociale oblige. Les mordus ne se découragent pas.
Tout est bien pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. On transpire au boulot.
Dans un magasin, c'est la même chose. De partout où vous allez, si on a peur, on reste chez soi. Les précautions sont prises. Les coachs ont les masques. Après, ça n'empêche pas nous aussi de mettre un masque si on en a envie. Eh bien, c'est nickel.
Mais les adhérents vont-ils tous reprendre leur abonnement? Il en va de la survie de centaines de petites salles. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Vous soulevez de la fonte, vous?
Tous les jours, d'ailleurs. C'est la première chose que je fais en me réveillant.
L'expression soulever de la fonte. Les baskets, le running, journée internationale du running. Vous allez pouvoir sortir, prendre l'air un peu. Merci beaucoup, Hélène Zélani. C'était le journal de 7h à 7h30. Tout à l'heure, nous serons avec Jérôme Lacroix.
À 7h17, une question santé. Votre réponse le matin avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Jimmy, que vous retrouvez, vous le savez, tous les jours de 15h à 16h, c'est l'émission Sans Rendez-vous, émission de santé avec Mélanie Gomez. Mais tous les matins après 7h, il est là pour répondre à vos questions. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
On peut reprendre notre vie sociale sans crainte en respectant la règle des 3C, Closed Space, Crowded Place et Close Contact Settings. Expliquez-nous.
C'est vrai qu'il est temps de retrouver une vie sociale car l'épidémie est contrôlée, mais il faut malgré tout rester vigilant. Et le meilleur exemple reste la stratégie de contrôle du virus par les Japonais. Ils préconisent le respect de la règle des 3C. 1 pour close space, c'est en anglais, pour endroit clos avec peu de ventilation. 2 crowd places, pour la foule avec des gens qui sont proches les uns des autres. Et enfin, close contact, pour des contacts rapprochés, typiquement lors d'une conversation que vous pouvez avoir avec des gens. Donc si vous cumulez ces trois situations à risque, vous vous exposez beaucoup plus au virus et c'est exactement ce qu'on observe dans les clusters détectés comme les abattoirs. Enfin, on a beaucoup parlé des masques et de la distanciation physique, mais il ne faut pas oublier l'hygiène des mains. Une étude vient de rappeler l'importance de se laver les mains. Si vous vous lavez les mains au moins 10 fois par jour, ça réduit le risque de 36% de contamination au Covid. Imaginez si on applique cela cet hiver, on pourra peut-être même réduire la mortalité liée aux autres virus, comme celui de la grippe par exemple.
Merci beaucoup le docteur Jimmy Mohamed, médecin d'Europe 1, qui répond à vos questions tous les matins. Il est 7h18.
Et place à l'innovation du jour avec Anissé Mbida sur Europe 1.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'innovation du jour, c'est une semelle antidérapante d'un nouveau genre. Elle est totalement plate et pourtant, elle permet de marcher sur la glace comme si c'était du bitume.
Oui, et c'est très malin. Vous voyez les pointes qu'il y a sous les chaussures des sprinteurs.
Oui.
Et c'est super efficace, ça évite de glisser, mais je ne sais pas si vous en avez déjà essayé. Pour marcher, c'est vraiment super inconfortable parce qu'on doit rester les doigts de pied en l'air.
J'ai une tête de sprinteur.
Vous vous souvenez bien de la fonte. Donc
oui, oui, c'est pour la légende.
Maintenant, imaginez une semelle qui, elle, est totalement plate, mais qui fait sortir justement ces petites pointes juste au bon moment, c'est-à-dire uniquement quand le pied risque de glisser. Eh bien, c'est ce qu'ont mis au point des chercheurs de l'université de Harvard aux États-Unis. Et leur objectif, c'est d'en faire profiter les personnes âgées. Vous savez qu'elles peuvent facilement perdre l'équilibre, tomber et se faire très mal. Eh bien, avec ce genre de semelle, elles pourront passer sur une plaque de verglas sans même s'en rendre compte.
Mais du coup, je ne l'ai pas vu. Hein. J'imagine des semelles comme les talons compensés. Vous savez, ça doit être énorme avec ce système, ce mécanisme qui fait entrer et sortir des points.
Non, justement, c'est là où c'est très malin. C'est une petite plaque en métal souple donc, dans laquelle on a découpé un motif qui ressemble à des écailles de serpent. Quand le pied est à plat, la semelle n'a aucune aspérité, mais dès que le pied commence à se lever, dès qu'on lève le talon pour marcher, la plaque va se courber, ce qui va faire ressortir les pointes comme si c'était une râpe à fromage. Et c'est le même principe qu'utilisent les serpents pour se déplacer. Ils prennent appui sur leurs écailles pour accrocher le sol. Donc c'est encore un bel exemple de ce qu'on appelle le biomimétisme. J'adore, c'est quand la technologie vient s'inspirer de la nature.
Et ça va être commercialisé ?
Oui, plusieurs fabricants de semelles ont pris une licence et on l'a dit, on va surtout les retrouver sur les chaussures des seniors.
Merci beaucoup Anissé Mbida, l'innovation tous les matins après le journal de 7h.
Europe 1.
Dans un instant, l'édito sport avec Virginie Fulpin.
Et le monde bouge, Axel de Tarlet dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil.
7h22, Mathieu Béliard sur Europe 1.
Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Mathieu.
Le monde bouge et vous le racontez tous les matins à 7h20. La voiture électrique décolle enfin. Depuis le début de l'année, sa part de marché a été multipliée par 4.
Oui, la voiture électrique représentait moins de 2% du marché l'an dernier et cette année, c'est 6,5%. Et alors, si on ajoute les modèles hybrides, ça représente 17% des ventes. Donc oui, on a là une vraie dynamique en France comme à l'étranger.
Est-ce qu'on sait qui achète des voitures électriques et pour quelles raisons ?
Alors écoutez, vous avez deux types d'acheteurs. D'abord l'acheteur militant, écolo, très fier de montrer qu'il ne pollue pas. Et puis le CSP+, qui possède déjà en général une grosse voiture pour partir en vacances et qui s'est offert une voiture électrique pour les trajets du quotidien, pour aller en ville. Donc c'est vrai, ça n'est pas encore un marché populaire, car la voiture électrique coûte cher. Même si justement, avec ce boom des ventes en ce moment, cela veut dire que dans quelques années, il y aura un marché de l'occasion, donc des modèles beaucoup plus abordables. Car, et c'est l'un des points forts moins connus de la voiture électrique, à l'usage, elle coûte beaucoup moins cher. D'abord, il y a zéro poste, zéro dépense côté essence. Et puis la motorisation est beaucoup plus simple, donc nécessite moins d'entretien, moins de réparation. C'est pour cela que les entreprises également sont de gros acheteurs et représentent plus de la moitié des ventes.
Donc on peut envisager une bascule assez rapide vers le tout électrique ?
Eh bien écoutez, pourquoi pas ? Nos constructeurs s'y préparent. De toute façon, ils y sont contraints par des normes de plus en plus exigeantes. Renault et Peugeot sont d'ailleurs très présents sur le secteur avec la Zoé et la i208. Mais oui, c'est une heureuse surprise de ce déconfinement. La voiture électrique est devenue un vrai marché Et attention, ça n'est pas anodin. Alors ça paraît une évidence de le dire, mais le patron de Total vient de rappeler cette chose toute simple. Total arrêtera de vendre du pétrole le jour où nous roulerons tous à l'électrique. Donc vous voyez, c'est à nous de jouer.
Oui, c'est le minimum. En fait. On arrêtera de vendre du pétrole quand plus personne n'en achètera.
Il dit, moi je suis mes
clients. Merci Axel de Tarlet, le monde bouge. Il est 7h23.
L'édito sport de Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Alors il y a un débat sur certains joueurs de foot qui refusent toute baisse de salaire pour aider leur club en ces temps de crise. Dimitri Payet, le capitaine de l'OM, s'est attiré les foudres de nombreuses personnes en disant qu'il avait des charges à payer. Pour vous, Virginie, c'est facile de taper sur les joueurs. Sur ce genre de sujet, vous êtes assez partagée.
Le premier réflexe, c'est de s'énerver contre leur attitude égoïste et hors sol, comme on dit aujourd'hui. C'est vrai que quand Dimitri Payet explique qu'il a des charges et qu'il doit agir en bon père de famille, on se dit qu'avec un salaire de 500 000 euros brut mensuel, ça devrait être possible de gérer ses fins de mois sans trop de problèmes. Et on a aussi envie de lui répondre que si vous voulez coller au cliché de milliardaire en short qui pense qu'à lui, il ne s'y serait pas pris autrement. Forcément, c'est compliqué d'entendre ce genre de choses pour tous les Français qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise, pour ceux qui ont vu leur salaire baisser parce qu'ils ont moins travaillé, et puis pour les gens qui travaillent dans les clubs et qui s'inquiètent légitimement pour leur avenir. S'ils jouaient au bowling plutôt qu'au foot, Dimitri Payet aurait réussi un strike légendaire en une seule phrase. Donc oui, la communication, elle est désastreuse, mais sur le fond, c'est pas aussi simple que ça.
Vous lui trouvez quand même des excuses ?
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, une carrière de footballeur, c'est très court. Mais bon, cet argument est assez court aussi, je l'avoue. Ensuite, il faut quand même dire que beaucoup de footballeurs en France ont accepté des réductions de salaire pendant la crise. Des footballeuses aussi, plus facilement d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Alors certes, ça s'est pas passé comme on l'a vu au Bayern Munich, au FC Barcelone ou à la Juventus de Turin, où l'ensemble des effectifs ont consenti à être moins payés. En France, on a plutôt fait du cas par cas. Du coup, forcément, chacun voit ce qu'il arrange, lui. C'est pas glorieux, c'est sûr, mais ça vous rappelle pas les réunions des dirigeants où chacun voyait mini à sa porte pour l'arrêt de la saison ou pour la reprise ou la saison blanche? Alors pourquoi on reprocherait aux joueurs de vouloir défendre leurs intérêts propres? Ils font comme tout le monde en fait, Donc ils ont peut-être des réactions égoïstes, oui, c'est agaçant, mais c'est humain. On ne peut pas leur demander en fait, d'être des modèles de vertu dans un monde du football qui n'est pas vertueux du tout. Derrière le message de Dimitri Payet, il y a aussi forcément l'idée que si son club est dans une situation financière compliquée, ça n'est pas la faute des joueurs et qu'il n'a pas envie de payer les pots cassés. Oui, c'est simpliste et maladroit, il n'aurait pas dû s'exprimer comme ça, mais il a raison sur un point. Cette crise nous a prouvé que le football devait remettre en cause son modèle économique, parce que s'il continue à ne faire que surfer sur la bulle des droits télé, c'est dangereux. Et ce n'est pas au niveau des joueurs que les changements peuvent avoir lieu. Ils n'ont pas les clés du modèle économique. Et ce n'est pas en leur baissant leur salaire pendant 3 mois que les voyants vont repasser au vert. Mais c'est tellement plus facile de leur taper dessus que de chercher des solutions globales.
Oui, pas de pensée pré-mâchée, de pensée toute faite, un peu de réflexion. C'est aussi ça, l'édito sport de Virginie Fulpin. D'accord ou pas, vous le partagez, vous écoutez, vous partagez, puis vous allez réagir au 39-21 ce matin. Ça ressemble un peu à la question que je vous pose à 8h30. Alors, vous n'avez pas le salaire de Dimitri Payet, la plupart d'entre vous en tout cas. Mais vous avez entendu par exemple le chantage des dirigeants de Ryanair, soit on baisse vos salaires, soit il y aura des licenciements. Les artisans, tiens, que l'on écoutait, qui vont renoncer à leurs vacances pour compenser la perte du confinement. La reprise économique, salaire, vacances, 13e mois, est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts? Est-ce que vous en demandez à vos salariés? Ce sera le débat à 8h30, 39-21 et le hashtag Europe 1. Merci Virginie Fulpin, il est 7h27.
Europe 1. Dans un instant, la météo, Laurent Cabrol et le journal de 7h30.
7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et je suis bien embarrassé parce que l'épisode orageux prend forme seulement en ce moment et il prend consistance, alors de sorte que les orages probablement n'éclateront qu'à partir de midi. Mais on voit ici ou là, partout en France, des averses se profiler, des petites pluies isolées. Et tout ceci, avec la chaleur, avec la montée des températures, va se transformer en averses orageuses et même en orages tout court, avec parfois de la grêle. Donc tout le monde sera prêt. Concerné, ou presque tout le monde. Je vais vous donner les régions un peu à l'écart. La Haute-Normandie, la Picardie, le Nord, Charente-Maritime, Gironde, Pays Basque et Loire-Atlantique sont des secteurs, des départements qui seront à l'écart des orages parfois violents. Mais partout ailleurs, vous risquez ce type de temps, donc orageux. Donc le parapluie par précaution est indispensable. Tous à votre PPP.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
J'espère qu'ils vont venir tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer.
fermé.
Ils nous attendent, les restaurateurs, commerçants italiens. La frontière avec l'Italie est rouverte ce matin. Le pays espère sauver sa saison touristique. 20 000 personnes et des heures hier soir à Paris. Rassemblement à l'appel de la famille d'Adama Traoré, mort à la suite d'une interpellation violente. Ses proches font un parallèle avec le décès de George Floyd. Dans ce journal, faut-il durcir la fiscalité sur les successions et les donations pour répondre à la crise économique? Et puis le festival de musique Wheel of Green, annulé en avril, renaît sur Internet. Tête d'affiche, Catherine Ringer, elle était ce matin l'invitée inattendue d'Europe 1. Votre invité après journal, Mathieu.
La solidarité entre les entreprises pour relancer le secteur du tourisme. Antoine Joutot, directeur général du groupe Leboncoin.fr, dans quelques toutes petites minutes. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Touristes européens, venez en Italie. L'appel des professionnels transalpins du tourisme après le déconfinement. Il faut sauver la saison. L'Italie rouvre aujourd'hui ses frontières aux citoyens européens.
L'Italie, c'est la première étape d'un tour de l'Europe du Sud que vous propose Europe 1 à partir d'aujourd'hui. Nous passerons par la Grèce, par la Slovénie, mais dès aujourd'hui, Vintimille, la frontière franco-italienne.
Et nous y sommes très attendus, Jean-Sébastien Soldaini.
Susanna a beau tenir sa plage au carré depuis deux semaines, les transats restent désespérément vides, les clients italiens sont rares, alors c'est entre angoisse et impatience qu'elle attend ce 3 juin.
J'espère qu'ils vont venir tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. C'est comme chez vous qu'à Menton il n'y a que des Italiennes, ils vivent pour les Italiens, nous on vit pour les Français. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer. Parce que sinon, tu spari.
Sinon, on peut se tirer une balle dans la tête, reprend-elle en italien, geste à l'appui. Comme beaucoup, elle attend aussi la réouverture du marché de Vintimille, le plus populaire de la Riviera. Fabrizio Sorgi représente les commerçants ambulants et avec son collègue, il considère les touristes français comme leur pain sacré.
Le
marché du vendredi était un des piliers de ma vie. 70% de mon revenu vient de ce marché. Pour moi, c'est la vie.
Le
retour des touristes, c'est une renaissance. Car si on perd la saison, on perd toute une année de travail.
Le marché ne sera rouvert que dans 12 jours, le temps de mettre en place les mesures sanitaires. En attendant, ils veulent accueillir les touristes du mieux qu'ils le peuvent, comme cette restauratrice qui diffuse la Marseillaise dans son établissement. Une façon de briser le silence des lieux ou bien de lancer un appel à la rescousse. Vintimille, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
La vague de colère partie de Minneapolis après le décès de George Floyd gagne la France. 20 000 personnes rassemblées hier soir à Paris, manifestation contre les violences policières malgré les interdictions de se réunir.
Rassemblement à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir, vous vous en souvenez, décédé il y a 4 ans après une interpellation violente, après la révélation hier d'une contre-expertise médicale mettant en cause les gendarmes.
Heure avec les forces de l'ordre en fin de soirée avec l'arrivée de casseurs et aux États-Unis, les manifestations continuent malgré les couvre-feux. Manhattan, Washington et Houston. Au moins 60 000 personnes.
Europe 1, il est 7h33.
52 milliards 200 millions d'euros, le déficit que pourrait atteindre cette année la sécurité sociale.
Du jamais vu. Une conséquence de la crise du Covid. Dans ce contexte, une idée refait surface pour financer ces grands chantiers de l'après-coronavirus. Taxer davantage les successions et les donations.
Idée portée par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, mais aussi Olivier Samin, par un grand patron, le PDG d'Orange, Stéphane Richard.
Pour la CFDT, mettre à contribution les donations et les successions, ce serait une mesure logique pour financer la dépendance. Avec un chiffre rappelé hier par Laurent Berger, 1% sur l'ensemble des héritages dès le premier euro permettrait de récolter tout de suite 2,5 milliards. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, s'en tient, lui, à des considérations philosophiques. Taxer davantage les donations et les successions serait, dit-il, une mesure d'équité et aurait en plus une vertu économique. Ça permettrait de rebattre les cartes à chaque génération. Aujourd'hui, quand vous faites une donation à vos enfants, ils ne payent aucun impôt sur les 100 000 premiers euros versés et vous pouvez recommencer pour chacun d'eux tous les 15 ans. Pas d'impôt non plus sur les 100 000 premiers euros de l'héritage. Ce n'est qu'au-delà que la taxation s'applique avec des taux qui démarrent à 5% et qui, sur les tranches les plus élevées du patrimoine, atteignent 45%. Le sujet est en tout cas ultra sensible. La preuve, à l'automne 2018, La République En Marche avait mis la question à l'étude, mais quelques jours plus tard, l'exécutif avait sifflé la fin de la partie.
La crise du Covid a-t-elle été bien gérée en France, suffisamment anticipée? Responsable politique, directeur d'administration, bientôt entendu par une commission d'enquête mise en place aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Adrien Beck. Elle sera largement pilotée par la droite et la République En Marche.
Moi, je n'ai pas envie d'une commission d'enquête polémique. Je n'ai pas envie de refaire un Benalla bis.
Comprendre plutôt qu'accabler, voilà la volonté affichée de Damien Abad, député LR et futur vice-président de la commission d'enquête.
Nous ne sommes pas là pour en faire un tribunal populaire et nous ne sommes pas là pour porter la responsabilité judiciaire. Il y a la Cour de justice de la République qui est là pour ça. Je dis simplement qu'il y a des responsabilités politiques, il y a des défaillances et ça doit être ça et uniquement cela le rôle de notre commission d'enquête.
Signe de sa bonne volonté, la droite ne demandera pas l'audition d'Agnès Buzyn, candidate à Paris, avant le second tour des municipales, ni d'ailleurs celle des Édouard Philippe, une droite conciliante et même un peu trop critique le communiste Sébastien Jumel.
Il y a eu un deal entre la droite et la droite, entre les marcheurs et la droite, pour se distribuer les rôles sur cette commission d'enquête. Touraine, Bachelot, Buzyn, Véran, quatre ministres soutenus par la droite et la droite, qu'il va falloir épargner à travers cette commission d'enquête.
Un argument qui fait bondir ce dirigeant de la majorité. L'extrême gauche, dit-il, on ne l'a pas beaucoup entendu ces dernières années, alerter sur le manque de masques et de respirateurs.
Lui non plus n'a pas résisté à la cascade d'annulations. Le festival de musique écolo Wheel of Green, prévu à Paris en avril dernier.
Alors, il a fallu s'adapter. Le festival revient d'aujourd'hui à dimanche sur Internet, à l'affiche notamment Catherine Ringer. Elle était ce matin l'invitée inattendue d'Europe 1 à 6h20.
C'est la première fois, on peut dire que c'est nouveau et intéressant, comme on disait dans le temps. On s'est revus et on a revu tous les morceaux. Et on a fait aussi un filage avec un tout petit peu de public pour faire quand même un mini concert. Il y avait 6 personnes qui sont venues masqués et qu'on connaissait pas vraiment, donc c'était bien quoi. Et comme ça, on a fait une répétition de concert aussi. Parce que quand ça fait 5 mois que vous n'avez pas joué et puis que hop, c'est un peu comme un sportif, vous voyez, il faut quand même s'entraîner. Je pense que ça fait partie de dire oui, on continue à être actif quand même.
Le festival francilien Wheel of Green, cette année sur le site wheelofgreen.tv.
Et puis un ballon d'or, entraîneur en 4e division, Jean-Pierre Papin, l'ancien bleu du foot, ballon d'or 91, entraînera le petit club de Chartres la saison prochaine et 4e division. Retour sur un banc d'entraîneur pour JPP à 56 ans.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal de 7h30 à 8h, une nouvelle édition avec François Geffrier.
Europe 1. Dans un instant, votre invité, Mathieu Béliard.
Le patron, le directeur général du site leboncoin.fr qui vient en secours aux professionnels du tourisme, vous allez comprendre, à tout de suite.
Europe 1, il est 7h39, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Antoine Joutot, directeur général du groupe Le Bon Coin.
Bonjour Antoine Joutot.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions ce matin sur Europe 1. Alors que le tourisme se déconfine, Le Bon Coin vient au secours des hôteliers français. C'est l'origine de notre appel, on va en parler dans une toute petite minute. Mais d'abord, si des entreprises ont tiré leur épingle du jeu pendant la crise, pendant le confinement, chez Le Bon Coin, c'est le déconfinement qui vous réussit. Je voyais que le 10 mai, veille de démarrage de ce déconfinement, c'est votre journée record de visite sur le site.
En effet, oui. On a eu un début de confinement, comme tous les Français, au ralenti, puisque la consommation...
Antoine Joutot, est-ce que vous m'entendez ? On est à distance avec Antoine Joutot, le directeur général du site Le Bon Coin. La liaison a été interrompue. On va revenir dans quelques toutes petites secondes pour parler de cette initiative du site Le Bon Coin pour soutenir les hôteliers français. Il est 7h40.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juin. Et si vous vous posez des questions sur votre déclaration de revenus, Europe 1 lance aujourd'hui l'opération Allo Impôts avec Le Parisien aujourd'hui en France, dès 8h, dans moins de 20 minutes maintenant. Et jusqu'à 19h, vous allez pouvoir appeler le 3921. 3921, coût de l'appel plus 50 centimes la minute. Des membres de l'Ordre des experts comptables vous répondront. Et en ce 3 juin, il ne vous reste plus que quelques jours pour remplir votre déclaration de revenus. Première date limite demain à minuit pour les contribuables résidant dans les départements numérotés de 1 à 19. 3921 pour les questions, pour les conseils.
Et nous avons retrouvé Antoine Joutot au téléphone avec nous. Bonjour, rebonjour.
Bonjour, ouais,
bon,
désolé.
Ça c'est le direct, c'est comme ça, ça a coupé, on vous retrouve au téléphone. Antoine Joutot, donc nous disions 10 mai, record historique, 19 300 000 visites sur le site leboncoin.fr. Dans le déconfinement, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui fait que les Français vont sur votre site et qu'est-ce qu'ils recherchent ?
Écoutez, je pense que pendant le déconfinement, tous les Français, moi y compris, nous avons d'abord rangé nos maisons, trié nos vêtements, etc. Donc la première chose qu'ils ont fait à la sortie du confinement, c'est de revendre ce dont ils n'avaient plus besoin. Et puis ensuite, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est vraiment l'envie d'extérieur, de respiration. Et donc, ils ont commencé à chercher des maisons un peu plus éloignées de d'où ils habitaient, des maisons avec des extérieurs, des piscines. Le vélo électrique aussi a explosé. Donc, on sent bien l'envie des Français de revivre. Et puis, vraiment, explosion aussi de tous les biens autour des loisirs, etc. Donc, il y a une un vrai redémarrage aspirationnel à la reprise post-confinement.
Alors, 4,5 millions de Français, là aussi on est dans l'inspiration, hein, si on se projette vers les grandes vacances, vers cet été, 4,5 millions de Français partent en vacances avec Le Bon Coin. Vous avez décidé de venir en aide aux hôteliers français en souffrance. La commission de 10% que vous appliquez d'ordinaire, c'est cadeau pour 2020, c'est ça?
Exactement. En fait, je lance un appel aux hôteliers et aux professionnels du tourisme, je leur dis qu'ils sont bienvenus sur Le Bon Coin. Et nous, on s'engage à ne pas prendre de commission jusqu'à la fin de l'année. Vous savez que c'est un secteur, le tourisme, qui était au bord du précipice. Hein. On parlait de 40 milliards de valeurs détruites, 400 000 emplois menacés. Et donc, moi, on ne pouvait pas laisser clairement cette situation et rester les bras croisés. Et donc, voilà, je crois que c'est l'heure de lancer un grand mouvement de patriotisme touristique. Nous, on a toujours été une entreprise engagée et on d'ailleurs, dans ce sens, on a le soutien de l'UMI et le soutien, par exemple, de le logis hôtel. Donc,
L'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alors, c'est vrai, c'est un geste. C'est vrai que c'est de la solidarité, mais vous dites, nous, on a choisi de s'asseoir sur cette commission. C'est une attaque frontale, hein, pour des concurrents comme Booking ou Airbnb.
Oui, c'est clairement une attaque frontale. En fait, aujourd'hui, il faut éviter la double peine pour les hôteliers qui manquent de trésorerie, manquent de moyens, qui payent des commissions extrêmement importantes. On parle de 15, 20, 30% en certains cas. Et en plus, des entreprises qui, clairement, même si elles ont d'excellents produits, ne payent pas leurs impôts en France. Donc, ce n'est pas le cas du Bon Coin. On paye nos impôts en France. Et donc, on a choisi de donner un coup de main. Le meilleur coup de main, c'est de leur permettre de reconstituer leur trésorerie rapidement et de proposer aux Français l'offre la plus large possible, l'hôtellerie, la location entre particuliers, la location professionnelle à particulier.
Et vous leur offrez aussi des espaces publicitaires, hein, j'ai vu, pour toute la période estivale. Aujourd'hui, avec votre système d'annonce, que les Français connaissent bien d'ailleurs sur Le Bon Coin, comment est-ce que le client peut être rassuré sur les conditions sanitaires de l'hébergement qu'il réserve sur votre site?
Écoutez, c'est la priorité de tous les hôtes sur la plateforme, notamment des particuliers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a signé un partenariat avec le groupe O2, important pour justement permettre à nos hôtes mettre en place ces conditions sanitaires et accueillir en toute sécurité les vacanciers. Et puis, ça leur permet aussi de bénéficier des conditions promotionnelles. Donc, vous voyez, on a mis tous les moyens à la fois en termes d'offres pour proposer l'offre la plus large possible aux Français qui vont pouvoir partir en France dans un pays formidable, mais aussi en toute sécurité grâce à ce label avec O2.
Un mot aussi, parce que vous avez un rôle à jouer dans le domaine. Hein. Le Bon Coin revendique d'être le deuxième site privé d'emploi. On parle de hausse massive du chômage ces derniers jours, des perspectives assez sombres pour les semaines à venir. Qu'est-ce que vous observez là, ces jours-ci, sur votre site, justement, en termes d'emploi?
Alors, ces jours-ci, on observe une augmentation très très forte de l'audience de la catégorie emploi du Bon Coin. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais on craint un peu comme tout le monde, comme tous les acteurs, on voit quelques indicateurs passer au rouge dans certains secteurs d'activité, sur certains profils de poste. Et donc pour faire cela, notamment, on a choisi de repasser en gratuité pour les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés, voilà, ne paieront pas leurs annonces sur Le Bon Coin. Donc vous voyez, on joue le jeu de relance de l'activité pour justement donner, notamment aux plus affaiblis, ceux qui sont plus exposés, les moyens de retrouver du dynamisme sur leurs activités.
Merci Antoine Joutot, au téléphone avec nous ce matin en direct sur Europe 1, le directeur général du groupe Le Bon Coin, les acteurs de l'actualité en direct tous les jours. Il est 7h46.
Europe 1. Dans un instant Périscope avec Nicolas Carreau ce matin et sa rencontre avec la romancière américaine Patricia Cornwell.
L'opinion de Nicolas Bétou avant 8h également, à tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, la matinale. Mathieu Béliard, 7h48.
Et votre rendez-vous culture le matin, c'est Périscope, la culture à 360 degrés ce matin, avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Et ce matin, Nicolas, vous nous emmenez à la rencontre à la rencontre de Patricia Cornwell avec une interview exclusive.
Oui, je l'ai rencontrée à Boston juste avant le confinement. Elle devait sortir son nouveau roman Quantum chez Lattès au mois de mars, mais la sortie a donc été repoussée à aujourd'hui.
Patricia Cornwell, vous nous le rappelez, c'est l'un des poids lourds de l'édition mondiale.
On estime qu'elle a vendu un peu plus de 150 millions de livres dans le monde. Elle est devenue célèbre avec son héroïne Kay Scarpetta, un médecin légiste qui résout les crimes grâce à son intelligence et ses connaissances médicales. Le premier a été publié en 1990. Depuis, elle en a écrit 24. Dans Quantum, rien à voir. Elle inaugure une nouvelle série de romans avec donc une nouvelle héroïne, Callie Chase, le capitaine Callie Chase, ancienne des forces spéciales, spécialiste de mécanique quantique et de cybercriminalité.
Impressionnant le CV.
Oui, et on la rencontre au tout début du livre. C'est plutôt angoissant. Elle est dans un tunnel, un petit tunnel. Une alarme a été déclenchée et ça, c'est pas bon, puisque c'est un tunnel sous le centre de recherche de la NASA. C'est peut-être une souris, mais peut-être aussi une tentative de piratage informatique à grande échelle. Or, elle trouve des traces de sang là-dessous. Elle remonte le fil. Le badge qui a servi à pénétrer le système appartient à un homme qui s'est suicidé. L'enquête commence, je ne vous en dis pas trop, mais ce faisant, on se promène dans les arcanes de la NASA, des services secrets et des centres spatiaux. Et comme toujours, Patricia Cornwell s'est beaucoup documentée. Mieux, elle a testé pour nous.
J'ai passé beaucoup de temps à la NASA. J'ai consulté, j'ai beaucoup travaillé avec des astronautes. Parce que dans le prochain roman, elle grimpe dans une fusée, donc je devais faire tout ça. Au centre spatial, je suis montée à bord d'un avion zéro gravité où vous êtes en apesanteur. Ouais, j'ai fait ça, il y a quelques mois. J'essaye tout ce que je peux parce que je veux le faire passer au lecteur.
Mais elle tient la forme, Patricia Cornwell.
Elle monte dans des fusées à 63 ans. Elle avait déjà appris à piloter un hélicoptère pour un autre roman. C'est quelqu'un de fascinant, extrêmement charismatique, blonde, avec des yeux bleus perçants. Je faisais pas trop le malin devant elle, mais je lui ai quand même demandé si elle avait eu le syndrome de Sherlock Holmes avec son héroïne fétiche Kay Scarpetta, puisqu'elle change d'héroïne. Vous savez, Conan Doyle n'en pouvait plus de Sherlock Holmes, alors il a décidé de le tuer. Pour Patricia Cornwell, il est hors de question de se débarrasser de son personnage.
Je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas la tuer. Et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si j'écrirai sur elle encore, ça il faut voir, mais je ne la tuerai pas. Simplement parce qu'il y a des gens partout dans le monde qui tiennent à elle. Elle est réelle pour eux, et je ne veux pas leur faire ça. Puis, j'ai arrêté de la faire vieillir depuis qu'elle a eu 50 ans. Et je suis bien plus âgée qu'elle maintenant, et puis j'ai envie d'écrire sur des choses différentes.
Alors, en attendant un éventuel retour de Kay Scarpetta, on peut donc suivre maintenant les aventures de Callie Chase.
Dans Quantum, le premier roman de la série chez Lattès qui sort aujourd'hui.
Merci Nicolas Caro. On retrouve l'intégralité de cette interview exclusive, dois-je le rappeler. Ce sera dimanche à 14h dans votre émission La Voix est libre. Merci Nicolas Caro, c'était Périscope.
7h51, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Moins 11%, c'est le niveau de récession jamais vu jusque-là. Que pourrait connaître la France cette année, selon les derniers pointages de Bruno Le Maire.
Un chiffre terrible qui devrait tous nous épouvanter. Mais non, les Français sont trop occupés à savourer leur retour presque total à la liberté. Tout se passe comme s'ils préféraient profiter de leur petit bonheur du moment, plutôt que de revivre le passé et son décompte affreux des morts du Covid, ou de regarder l'avenir économique et social qui menace, parce que, on le sait maintenant avec certitude, ça va secouer très fort.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Une malédiction, celle du chiffre 11. 11% de récession avec bientôt 11% de chômeurs, soit 1 million de demandeurs d'emploi supplémentaires. Et tout ça va engloutir des dizaines, des centaines de milliards d'euros, tellement que ce ne serait pas étonnant de voir le déficit budgétaire s'approcher ou même dépasser les 11% du PIB. Un chiffre maudit, ce 11.
Vous cherchez quoi, là ? À nous faire peur ce matin, Nicolas ?
Oui, je fais ce que le gouvernement devrait faire. Il a bien réussi à nous enfermer, nous, pendant 8 semaines, en nous faisant peur avec le coronavirus. Système imparable hein, pour nous confiner. Eh bien, il doit utiliser la même recette pour nous déconfiner. Il doit nous effrayer avec ce qui se passerait si nous restions enfermés encore longtemps.
Mais Nicolas, il y a pourtant des aides, des reports de charges, il y a le chômage partiel, toujours.
Oui, mais ça, c'était le traitement indispensable pour passer le pic de la crise économique et sociale. Ça ne peut pas durer indéfiniment. D'ailleurs, plus ça dure, plus ça coûte et plus l'économie s'enfonce. La France a eu besoin de traitements massifs, ok, mais il lui faut maintenant un autre médicament. Et ce médicament, il est connu, c'est le travail. La France doit accélérer son retour au boulot. Les Français doivent se déshabituer de cette situation de travail alternatif avec chômage partiel à coût de milliards d'euros ou télétravail massif, parce que même si c'est une solution, ici ou là, ce n'est pas ça la vraie vie. Il faut recommencer à faire tourner l'économie, sinon la crise fera des morts, des entreprises, des emplois, et peut-être même parmi les centaines de milliers de chômeurs, des gens qui vont désespérer. Mais cela, on ne les verra pas, on ne les comptera pas. Tenez, voilà ce que devrait faire le gouvernement. Compter tous les jours. Comment compter les entrées en réanimation dans les services d'urgence des hôpitaux? Compter les disparitions d'emplois? Compter les mises en faillite? Tous les soirs, conférence de presse, directeur du travail, un patron de l'INSEE? Croyez-moi, ça mobiliserait.
Il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent, Nicolas, pour défendre un autre remède, les impôts.
Et oui, oui, comme s'il fallait d'abord prendre de l'argent aux Français avant de les inciter à recommencer à en gagner. Quant au retour de l'ISF, il est à la gauche ce que la chloroquine est au professeur Raoult, une fascination qui peut provoquer des disparitions prématurées.
Ça vous réussit bien le déconfinement, Nicolas. Vous revenez en pleine forme. Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins, votre édito juste avant le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1. Dans un instant, Laurent Cabrol et la météo. 7h57, Mathieu Béliard est sur Europe 1.
Et ce matin, je voulais absolument que vous entendiez ce document. Un son, comme on dit en radio, sauf que c'est du silence que vous allez écouter. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, interrogé hier en pleine conférence de presse, interrogé sur la situation aux États-Unis. Au moment de commenter l'attitude, le discours de Donald Trump, Justin Trudeau qui apparaît pour le moins embarrassé.
Vous avez hésité à commenter les paroles et les actes du président américain, mais Donald Trump appelle maintenant à une action militaire. Nous avons vu des manifestants visés par des gaz lacrymogènes pour une opération de communication du président. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de ça. Et si vous ne voulez pas commenter, quel message pensez-vous envoyer ?
Ce n'est pas un bug, hein. C'est un silence. 22 secondes de silence. Est-ce qu'il réfléchit ? Est-ce qu'il hésite ? Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.
Nous regardons tous avec horreur et consternation.
Et à l'image, rien ne bouge pendant qu'il parle avant cette réponse presque langue de bois. Au final, Justin Trudeau, allez voir cet extrait, c'est assez impressionnant. Le Premier ministre canadien. Les États-Unis, on va en reparler dans le journal de 8h, bien sûr. Mais d'abord, à 7h59, la météo, Laurent Cabrol.
Et ça bouge, ça y est, ça bouge. Les orages commencent à se former maintenant. On voit des guirlandes d'averses orageuses qui se promènent sur toute la France. C'est joli comme ça sur la carte, mais ça va être moins drôle lorsqu'on est dessous parce qu'elles ont toutes les couleurs et des couleurs de pluie intense. Et il y en aura donc toute la journée. Elles commencent à se former. La chaleur va monter. Les orages vont se multiplier. C'est parti, mes enfants. C'est parti, malheureusement. On espérait qu'elles pourraient être, disons, contournées, cette zone orageuse. Eh bien non, elle est bel et bien présente. Alors, des orages forts, très forts, sur Rhône-Alpes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Berry, très fort sur le Midi-Pyrénées aussi, sur le Massif Pyrénéen bien entendu. Et puis un petit peu épargné, des régions comme la Haute-Normandie, le Nord, la Gironde, le Pays Basque et la Loire-Atlantique, elles sont un peu à l'écart de cette zone de temps musclé. Bien sûr les pluies et la grêle, les températures vont chuter entre 22 et 27 degrés. Elles restent quand même bien soutenues, hein, Paris 27 degrés, où les orages seront présents plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Bon, je vous en dis plus dans une heure, puisque la prochaine météo est à 8 et à 9 heures. Je vous en dis plus et nous verrons ce qu'il en est justement de la progression de ces orages.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer.